France Inter. La grande matinale. Mathilde Serrel.
C'est l'histoire d'un type qui travaillait depuis 10 ans sur un bouquin et qui n'y croyait plus vraiment. Et puis ses proches, son éditeur, ont cru, eux, en l'étincelle. 2 ans après, c'est plus qu'un feu de joie, c'est une véritable passion mondiale qui s'est déclenchée autour de ce premier roman, Les yeux de Mona, traduit dans une 60aine de langues, écoulé à 1 million d'exemplaires, dont 500 000 rien qu'en France, soit le score d'un prix Goncourt. En tête du classement des best-sellers du New York Times pendant plusieurs semaines, il a même reçu le Book of the Year des librairies Barnes & Noble, soit l'une des plus prestigieuses récompenses américaines, attribué pour la première fois à un auteur non anglophone. Après une tournée internationale, messieurs, dames, il revient avec un nouveau roman, toujours chez Albin Michel, toujours dans une veine de transmission, et ce que Les yeux de Mona faisaient avec l'art, Le chat du jardinier le fait avec la poésie. Thomas Schlesser peut vous changer la vie, mais comment vit-il la sienne? C'est notre grand portrait, numéro 96. Bonjour Thomas Schlesser.
Bonjour.
Vous avez rêvé de quoi cette nuit?
Ah, c'est drôle ça. Je me demande si j'ai pas rêvé de vous, Mathilde.
Ah. Bon, on veut avoir des détails.
Non, j'ai rêvé de quoi? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je fais beaucoup de rêves en ce moment autour de ma Provence natale. Je crois qu'avec le chat du jardinier qui sort, je fais beaucoup de rêves de nature et beaucoup de rêves d'enfance. Et c'est assez logique au fond, parce que c'est pas un retour du refoulé, c'est un retour d'une grande joie, celui du Var, celui du soleil, celui des pins et des oliviers, voilà.
Qui sont dans ce nouveau roman, qui en sont le cadre et l'inspiration aussi, hein, le chat du jardinier. Je vous ai posé la question des rêves, parce que c'est à partir des rêves dans ce roman qu'on commence à approcher la poésie, les poèmes de Verlaine, mais aussi ce rêve d'un astre qui tombe, que fait le jardinier, et qui résonne avec les vers du poète romantique autrichien Nikolaus Lenau. Le ciel laisse, tout affairé de tristesse, négligemment tomber le soleil de sa main.
Oui, les rêves, en effet, pour peu qu'on commence à les raconter, sont quasiment immédiatement des poèmes. Je crois qu'on peut faire le test autour de nous. Vous faites le récit de votre propre rêve. Non seulement vous formulez quelque chose de poétique, mais les gens qui vous écoutent ont l'impression d'avoir une réalité autre qui se manifeste. Et c'est une voie d'accès très, très simple, très immédiate à la fantaisie poétique.
Il y a un poème en germe dans chacun de nos rêves, mais peut-être pas un poète en chacun de nous.
Non, il ne faut pas exagérer, parce que ça serait un peu de la démagogie que d'imaginer que nous serions tous des petits Arthur Rimbaud ou des Cesare Pavese en puissance. Non, ce n'est pas le cas. Néanmoins, je crois qu'il y a en chacun de nous un lecteur ou une lectrice de poésie. Et ça, c'est vraiment un combat que j'ai envie de mener. C'est de recréer une scène d'écoute de la poésie, d'attention à la poésie. Vous voyez, on est en France, un très grand pays de poésie, mais on s'est un peu fâché avec celle-ci.
Elle est de retour sur Instagram, et puis il y a des poésie clubs.
Vous avez raison. Exactement. Il y a une jeune génération qui porte tout ça. Je crois que c'est très important de rouvrir les écoutilles pour être à nouveau attentif à la poésie.
Dans Le chat du jardinier, le jardinier, c'est Louis, un être robuste, presque mutique, qui espère la guérison de son chaton. Il prend chaque jour le thé et parfois le pastis avec sa voisine Tali, une prof de français fraîchement retraitée qui l'initie à la poésie. Tandis que les environs ont été ravagés par une tempête, leur pacte est le suivant. Lui répare son jardin, elle lui répare la parole. En quoi la poésie répare la parole, Thomas
Schlesser? Parce que la poésie, c'est le meilleur moyen de ramasser des émotions très très fortes, souvent contradictoires, en des formules courtes et efficace. Lire de la poésie, c'est vraiment arriver à retrouver en soi l'ensemble des sensations qui nous traversent, et donc par conséquent revenir à une forme d'expression, et je dirais d'expression émancipée, d'expression libre. Moi, vous savez, la poésie...
Oui, comment vous y êtes venu? connu, vous ?
Moi, c'était quand j'étais adolescent, où justement, j'étais mal dans mon corps, comme beaucoup d'adolescents. J'avais beaucoup, beaucoup de problèmes.
Vous faisiez
aussi
1m87 à 12 ans, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et vous vous sentiez très seul là-haut, paraît-il.
Exactement, c'était une belle, très jolie expression, en effet, un peu seul là-haut. Et donc, la poésie me permettait de dire tout ce que je n'arrivais pas à formuler, mais à travers la voix des autres.
Mais par comment exemple, vous êtes retrouvé en contact avec un poème ?
C'était avec Guillaume Apollinaire. À un moment donné, je suis dans la bibliothèque de mon père. Je prends au hasard un recueil qui s'appelle « Alcool » de Guillaume Apollinaire. Je ne comprends rien à ce qu'il y a dedans, mais ça me parle mystérieusement. Et quand j'étais le mercredi après-midi, quand j'avais pas cours et que j'étais au collège, parfois je jouais à la console et d'autres fois je prenais ce livre tout seul dans ma chambre et je déclamais à haute voix du Guillaume Apollinaire. Et ça me faisait un bien fou. La poésie, j'insiste, elle se déclame, elle se dit oralement. C'est vraiment un acte d'oralité, la poésie. Donc n'hésitez pas, hein, tous les mercredis après-midi ou les week-ends, parlez un petit peu comme ça à vos plantes, à vos proches, à vos bêtes, en lisant et en disant de la poésie.
Une journée réussie, c'est une journée où on lit un poème, ne serait-ce qu'un vers.
Ouais, il suffit de lire un poème et la journée, je sais pas si elle est sauvée.
On peut pas tout sauver quand même.
Non, on peut pas tout sauver d'une journée.
Dans le monde.
Mais ça fait vraiment, vraiment du bien. Moi, je m'oblige à cela. Tous les jours, je lis un poème.
Ce matin, vous avez lu quoi ?
Alors, ce sera pour ce soir.
le mauvais élève.
Hier, c'était encore du Guillaume Apollinaire.
Voilà. Je précise que votre nouveau roman, et on en parlait un petit peu au début de cet entretien, se situe en Provence, pays de Cézanne et de votre enfance, passée en grande partie chez votre grand-mère maternelle, près de Draguignan. Je précise que vous vivez non loin de là, à Antibes, où vous dirigez depuis plus de 10 ans la fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman. Je précise encore que vous êtes historien d'art et qu'avant le succès phénoménal de ce premier roman, Les yeux de Mona, vous n'étiez pas cet auteur qui pointe dans les meilleures ventes et dont les séances de dédicaces ne désemplissent pas. Alors, comment vous sentez-vous maintenant dans ces pompes-là ? Qu'est-ce qui a changé, à part vos chaussures, paraît-il ?
Oui, bon, j'ai acheté 2 paires de chaussures, mais sinon rien n'a changé. En fait, je suis toujours exactement le... Enfin, j'espère, exactement le même. Surtout, j'ai pas changé mes habitudes, j'ai pas changé mes pratiques, j'ai pas changé d'amis, j'ai pas changé d'avis, j'ai pas changé d'habit, j'ai pas changé d'adresse, j'ai pas changé d'habitude. Donc, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui ait changé. En revanche, c'est vrai que les yeux de Mona m'ont offert la possibilité d'avoir une lucarne un petit peu plus large pour dire ce que j'avais envie de dire. Et Le chat du jardinier, je le vois comme un livre de combat sur un matériau qui n'est pas un matériau simple. Il faut avouer les choses. La poésie, c'est un repoussoir, un peu comme les mathématiques. Mmh. De la poésie, on a une image qui n'est pas très... qui est souvent...
hermétique.
Qui est souvent très hermétique. Et du coup, j'ai écrit Le chat du jardinier aussi comme un livre engagé en faveur de la poésie parce que j'en avais la possibilité.
Ce roman, justement, Les yeux de Mona, qui vous donne cette possibilité, il est sorti en librairie le 1er février 2024. On est quasiment 2 ans pile après et 1 million d'exemplaires plus tard, je le disais, des chiffres qui donnent le tournis. J'aimerais qu'on se replonge dans ce que vous me disiez à ce micro, ici même, le 13 février 2024.
Quand ce livre a été terminé, après 10 ans de travail, ça a été vraiment un long labeur, je n'y croyais pas plus que cela. Et d'ailleurs, mon éditeur chez Albin Michel, Nicolas de Cointet, je lui avais dit, il m'avait dit, mais moi j'y crois pour toi, et je pense que ça peut aller très loin.
Et je pense que ça peut aller très loin, disait-il. Bien vu. Mais que ça devienne un best-seller aux États-Unis, que vous soyez le premier auteur non anglophone, je le disais, à recevoir le prestigieux Book of the Year de Barnes & Noble, c'est-à-dire aux côtés de monuments américains comme Percival Everett ou James McBride, que vous soyez acclamé dans une tournée internationale avec plus de 60 traductions à travers le monde, aussi loin que ça, il le voyait ?
Non, personne ne peut imaginer cela. Si vous permettez, Mathilde, il a très bien fonctionné aux États-Unis, mais il a aussi très bien fonctionné en Turquie ou en Roumanie.
Retour vous avez d'ailleurs ?
Oui, non, ce que je veux dire, c'est que les États-Unis, qu'on voit toujours comme une sorte d'horizon indépassable...
Le rêve américain.
C'est une chose, mais moi je suis encore plus comblé de voir que dans des pays qui peuvent paraître un peu plus réticents à lire de la littérature francophone, en fait, il y a eu des retours excellents.
En Chine, vous avez été traduit, vous avez quoi comme retour ?
En Chine, écoutez...
Vous ne savez pas lire le chinois à ce stade.
Je dois vous dire que je ne suis pas allé jusqu'en Chine pour le défendre. Mais.
Alors, pour mémoire, les yeux de Mona, c'est un grand-père d'Adé inquiet pour sa petite-fille Mona qui est en train de perdre la vue et qui l'emmène découvrir et saisir la portée de 52 chefs-d'œuvre de l'art. Vous parliez de votre tournée, justement. Moi, je voudrais qu'on souligne cette chose très importante. Vous avez mouillé la chemise, Thomas Schlesser. On va vous entendre pendant cette promo ici en anglais.
I realize that when I am alone, I am pessimistic. When I was only with my brain in myself, revolving on my obsessive questions, I am pessimistic. But every time I am with human beings, for example, this evening, I am super optimistic.
Oh, le dragueur. Bon, c'est quoi la traduction?
Non, ça veut dire que dès que je suis seul, c'est vrai ça d'ailleurs, dès que je suis seul, je me sens toujours un peu sombre et pessimiste, mais dès que je suis au contact d'autres êtres humains, j'ai l'impression que tout est possible et que l'humanité, d'une certaine manière, je crois, se sauvera très aisément d'elle-même parce que j'adore être au contact des autres. Quoi. C'est un peu bateau hein, ce que je dis, mais c'est très vrai.
Ça vous sauve de vos pensées qui peuvent être mélancoliques parfois.
Bien sûr.
C'est un sentiment que vous assumez.
Oui, bien sûr, que j'assume totalement. J'ai trouvé très important à votre antenne tout ce qui s'est passé autour de Nicolas Demorand l'année dernière, parce qu'il a levé un tabou autour de la maladie mentale vraiment fondamentale. Moi-même, j'ai aucun problème à l'avouer. J'ai traversé des dépressions. Je sais ce que c'est que de tomber dans quelque chose de très gris, où on est. Dès qu'il y a la présence d'autrui, la lumière est susceptible de se rallumer. Je crois que c'est très important qu'on se le dise entre nous, tout ça. Voilà. Et c'est le cœur hein, du chat du jardinier. Ce pauvre jardinier, il est sauvé, très isolé. Il est sauvé par la présence de deux voisins formidables et puis de toute une cohorte de poètes qui sont comme autant de fantômes qui l'accompagnent.
Qui sont avec lui. Alors, quand je disais que vous êtes allé loin pour mouiller la chemise dans cette tournée mondiale, Thomas Schlesser, pour défendre les yeux de Mona, vous avez même cité, on va retrouver le chat du jardinier, vous avez cité du Rimbaud. En italien.
Quindi il messaggio filosofico estratto di una poesia di Arthur Rimbaud è bisogna fissare le vertigini.
Bisogna fissare le vertigini.
En plus, l'émission était en direct. J'étais en direct en italien. C'était pas facile.
Vous étiez allé sur Google traduire rapidement pour parler italien.
Non, c'est très facile. En fait, Rimbaud dit il faut fixer des vertiges. Voilà, c'est une expression sublime. Il faut fixer des vertiges. C'est dans Une saison en enfer.
Ça a été handicapant, ce succès monstre, pour écrire ensuite Le chat du jardinier?
Non, pas du tout. D'abord, j'avais commencé à écrire Le chat bien avant, il était déjà en moi. Non, pas du tout. Au contraire, encore une fois, j'insiste, je me disais qu'il y aurait la place pour quelque chose au-delà de l'initiation aux œuvres d'art. Et moi, j'avais très, très à cœur de m'attaquer à ce grand enjeu qu'est la scène poétique, l'histoire de la poésie. Non, c'est que de la joie, en fait.
Rimbaud, on le citait à l'instant, mais aussi Hugo, Pessoa, Césaire, Villon, Emily Dickinson, Georges Brassens ou Anne Sylvestre sont dans la grande lignée des poètes auxquels est initié votre personnage de Louis le Jardinier dans ce nouveau roman Le chat du jardinier. Mais il y a aussi une place particulière pour René Char, en filigrane dans tout le roman. D'ailleurs, c'est sur ces vers que se clôt le livre. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ?
René Char, il est l'incarnation de la résistance et je trouve extraordinaire qu'un poète soit à la fois un maître du langage, venu d'un milieu très humble en plus et puis un personnage d'un courage exceptionnel. Il y a ces vers magnifiques de Char qui dit « Rien ne fait naufrage ou ne se plaît aux cendres » et « Qui sait voir la terre aboutir à des fruits ?» point ne l'émeut l'échec, quoi qu'il ait tout perdu. Ça, c'est vraiment des vers de résistant.
C'est la dernière phrase du livre.
Oui. Et donc, René Char nous rappelle à quel point la poésie est résistance. Les vers d'Aimé Césaire sont de la résistance. William Ernst Henley, qu'aimait tellement Nelson Mandela, c'est de la résistance. La poésie est toujours, d'une manière ou d'une autre, politique. Donc, René Char, oui, pour moi, c'est quand même pas très loin, c'est voisin de là où j'ai grandi, donc c'est très agréable
en plus. Oui, d'ailleurs, ouais, on l'entend quand il lit ses propres poèmes.
Oui, il y a cet accent fabuleux.
Magnifique. Ouais. Ce roman, donc, Le chat du jardinier, suit une trame initiatique. Tali ouvre donc l'univers infini de la littérature et de ses voix chères qui se sont tues, comme disait Verlaine.
Oui.
Il va découvrir cet univers grâce à Tali, cette professeure de français à la retraite, on le disait, qu'il initie. Comme dans Les yeux de Mona, en fait, la petite fille va découvrir la peinture grâce à son grand-père. En fait, à chaque fois, on est dans cette histoire de la transmission. Et j'ai envie qu'on parle de la vôtre, du coup. Mmh. Puisque le grand-père, dans Les yeux de Mona, il s'appelle Dadé. Ça vient pas de nulle part. André Schlesser, patron de cabaret, d'origine gitane. Il fait chanter Barbara, il épouse Maria Cazares, 18 ans après la mort de Camus. C'était qui pour vous, ce Dadé?
C'était un grand-père mythique. Je l'ai un petit peu connu. Il est mort en 1985, donc j'étais tout petit, mais je l'ai un petit peu connu. J'en ai un souvenir très ému, très fort. Avec mon père, on a d'ailleurs publié ses mémoires d'enfance, Petit chien sans ficelle, qui est un petit livre vraiment très, très joli. Je dirais vraiment une incarnation de la liberté, ce grand-père. Mais comme beaucoup d'hommes très, très, très libres et un peu, je sais pas comment dire, toujours ailleurs, toujours aux quatre vents. C'était sans doute aussi quelqu'un qui était un peu égoïste. Voilà. Bon, il faut dire les choses comme elles sont. Mais un grand-père mythique important dans ma vie.
Et Maria Cazares, elle était comment?
Alors Maria Cazares, je l'ai vue deux fois. Elle me faisait horriblement peur. Elle était brillante, très actrice.
Elle est belle.
Oui, très belle. Mais j'étais tout gamin. Elle me faisait peur, pour tout dire.
Et cette origine gitane, vous y pensez? Vous y êtes intéressé?
Je m'y suis intéressé forcément, mais comment dire, j'en tire ni gloire ni honte, c'est comme ça. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde se pose beaucoup de questions sur son identité,
ADN,
son origine, son ADN, etc. C'est là, c'est ça, mais je peux pas dire, étant donné ma vie, je peux pas non plus dire que ce soit quelque chose qui soit ultra...
L'historien d'art de la Fondation Hans Hartung...
Mais il est peut-être loin de cette
famille gitane.
Cela dit, je sais que dans ma famille, pour certaines personnes, c'est important. Ouais.
Alors, on va écouter André Schlesser, justement, en 1962, proche de Jean Villard, le créateur du Festival d'Avignon et du Théâtre National Populaire. Dadé Schlesser avait composé cette chanson pour le théâtre, justement, quand j'étais petit.
Quand j'étais petit, je n'étais pas grand, je n'étais pas grand, je n'étais pas grand. La pluie et le vent, la pluie et le vent, la pluie et le vent. Je ne risquais rien que d'être...
Vous la connaissiez ?
Oui, je la connaissais, mais je ne chante pas aussi bien que lui. Il avait une petite voix fluette qui était quand même très charmante. C'est gentil de passer un peu la voix de mon grand-père, ça fait très plaisir.
Quand vous étiez petit, vous, je l'ai dit, vous étiez un peu mauvais élève, en fait, on l'a entendu.
J'étais
aussi.
J'étais même un cancre.
Début du cancre, carrément un cancre.
Ouais.
Et vous leur dédiez ce livre au cancre, au bon et au mauvais élève, mais surtout au mauvais, écrivez-vous.
Oui, mais je suis très très sensible au fait qu'au collège, au lycée, on puisse être un peu dernier de la classe. Moi, j'étais toujours le dernier à ne pas redoubler. J'étais vraiment le cancre de Prévert, hein, celui qui dit non avec la tête, qui dit oui avec le cœur, qui dit oui à ceux qu'il aime et qui dit non au professeur. J'étais vraiment, vraiment ça.
Et basket, vous étiez nul aussi?
En basket, j'étais un peu nul en tout, en fait. Mais vraiment, après ça, j'étais un peu meilleur dans la vie en général à partir de 15-16 ans. Et le chat du jardinier, je l'ai écrit en repensant à toutes ces difficultés que j'ai pu avoir quand j'étais jeune. Et j'ose espérer que ce sera un livre que liront certains adolescents, parfois en difficulté en cours. Il s'adresse aussi à eux, ce livre. Voilà.
Vous avez dit dans un entretien que la vie, vous avez souvent passé à tabac.
Oui.
Thomas Schlesser, d'où venaient les coups?
Ah, j'ai eu des coups qui venaient de partout, beaucoup de déceptions, beaucoup d'échecs, beaucoup de désillusions. Heureusement aussi... énormément d'amis, des gens qui m'ont aimé, qui m'ont soutenu.
Alors quand on vous dit que vous faites de la littérature feel good, vous dites bon.
Non, c'est totalement exagérer. Faux. C'est une, en fait, c'est une. Bon, ça me dérange pas ce qu'on dit sur moi. Honnêtement, je m'en fous un peu. Mais je trouve ça complètement absurde. Si on lit un peu attentivement mes livres, on sait qu'en fait, ils sont traversés par la mélancolie et que ils sont en effet des sublimations de la mélancolie. Mais c'est pas du tout de la littérature feel good. Ou alors faire de la littérature feel good en expliquant Hölderlin, Frida Kahlo, Paul Cézanne, bah tant mieux. Si on me range là-dedans, tant mieux. Je pense que c'est une littérature feel good d'un certain niveau. Mais ça, ces catégorisations hâtives, bon, si ça peut faciliter la vie des journalistes, pourquoi pas, je m'en fous.
En tout cas, ce chat du jardinier et Louis le jardinier, cet être hypersensible comme vous, mal à l'aise dans son corps comme vous, sûrement en tout cas à 12 ans, vous nous l'aviez dit, il répare sa parole et il est réparé aussi le petit Thomas Schlesser, j'ai l'impression un peu.
Oui, là, ça va,
avec Louis, ça va bien.
Ça va bien. Ouais, là, ça va bien.
Même en ayant raté Normal Sup.
Merci. Deux fois.
Merci Thomas Schlesser. Le chat du jardinier, votre deuxième roman chez Albin Michel est en librairie. De nouvelles traductions sont en cours et l'adaptation au cinéma de votre succès mondial. Les yeux de Mona se préparent. Bonne route.
Merci.
Et vous serez accompagné dans vos pas par une Gloria Jones, plus déterminée que jamais sur France Inter. En 1964, on connaît la version années 80 de Soft Cell, mais c'est encore plus puissant, version Gloria Jones. Vous êtes bien dans le mag de la grande matinale et nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Charline Vanhoenacker à 9h45. Bonjour Charline.
Bonjour la France Inter. Vous savez, les initiateurs du débat sur la fin de vie, ça a été tellement long, je crois qu'ils ne sont plus là aujourd'hui. Voilà. Alors, une loi devrait être sans doute votée cet après-midi. On va fêter ça avec mes meilleures blagues d'euthanasie.
Ok, on aura le plaisir de réécouter le danseur Nemo Florey au micro de Daphné Burki. Ce sera tout à l'heure dans Nouvelle Tête, mais tout de suite, 9h30 sur France Inter, c'est l'heure du débat du jour. Débat sur une question brûlante. Ce matin, la démocratisation culturelle a-t-elle échoué ? En 1959, lorsque s'est créé le ministère des Affaires culturelles, confié à André Malraux par le général de Gaulle, son objectif fixé par décret est de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France au plus grand nombre possible de Français. Bref, ce qu'on appelle la démocratisation culturelle, le fait de rendre la culture accessible à tous. En 2026, quelques décennies plus tard, 67 ans, alors que Malraux Malraux a été suivie par bien d'autres ministres de la Culture. Où en est-on ? Faut-il parler d'échec ? Cette politique culturelle s'adresse-t-elle encore à toujours... ne s'adresse-t-elle pas toujours aux mêmes ? Et comme on l'entend de plus en plus, l'absence de remise en cause de ce modèle culturel ne finit-elle pas par alimenter les populismes ?
Un livre qu'on peut emporter, qu'on peut corner, qu'on peut plier dans sa poche, même à l'envers.
Et depuis que les livres sont en livre de poche, vous en lisez beaucoup plus ?
Beaucoup plus, oui.
Les livres de poche sortent des classiques que dans la librairie, dans les collections de la Pléiade, qui sont trop chers.
Les prix Goncourt, quand ils sortent, ils sont trop chers.
Est-ce que ça me permet de lire dans le métro, dans le train, ou des choses comme ça ?
France Inter. La grande matinale. Mathilde Serrel.
Le livre de poche, ça c'était peut-être un exemple de politique culturelle réussie. La culture pour tous a-t-elle failli dans sa mission ? On en débat avec Victorien Bornéa, conseiller culture au sein d'une grande collectivité territoriale, auteur de L'exclusion culturelle, manifeste pour une riposte populaire publié aux éditions du Faubourg, et avec Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Culture. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
On va commencer par vous, Victorien Bornéa. Vous venez de publier donc cet essai sur la question de l'exclusion culturelle. Votre thèse, c'est que depuis maintenant des décennies, on maintient une politique inefficace. Pour vous, les politiques culturelles françaises sont un échec et on refuse de le voir.
Écoutez, les politiques de démocratisation culturelle ont apporté énormément de choses.
On entendait le livre de poche.
Exactement. Des équipements culturels partout en France, des financements publics extrêmement importants. Néanmoins, il y avait un objectif. C'était que tous les Français puissent accéder à la culture dans ses formes les plus légitimes, héritées en général des arts savants et de la culture lettrée. Donc, c'est, pour le dire plus simplement, c'était l'idée que tout le monde, et notamment les classes populaires, aillent au théâtre, aillent au musée, aillent à l'opéra, etc. Mais sur ce point-là, effectivement, on remarque que cet objectif n'a pas été atteint. Et aujourd'hui, effectivement, il faudrait réfléchir à quelle serait la nouvelle étape de nos politiques publiques.
Alors, sur quel chiffre vous vous basez donc, pour dire que cet objectif n'a pas été atteint ? Vous pouvez les présenter aux auditeurs ?
Oui, tout à fait. Alors, je fais un constat qui est purement statistique et sociologique, qui est d'ailleurs publié par des études du ministère de la Culture lui-même.
Sur les pratiques culturelles des Français, c'est ça ?
Exactement, sur les pratiques culturelles des Français. Donc, évidemment, on a vu depuis 70 ans, on a un recul historique assez important et on voit qu'il n'y a pas de modification des pratiques culturelles. Et on voit même par ailleurs qu'il y a un creusement des écarts sociaux, par exemple, dans la visite au musée ou la visite d'exposition.
C'est-à-dire que ce sont les classes qui étaient déjà susceptibles d'y aller qui y vont de plus en plus et ceux qui en étaient éloignés, comme on dit parfois, les publics éloignés de la culture, qui y vont moins. Alors, Roselyne Bachelot, est-ce que vous êtes d'accord, vous qui avez été ministre de la Culture de 2020 à 2022, dans une période compliquée en plus, la période Covid, est-ce que vous êtes d'accord avec ce tableau décevant, mais peut-être bien réel.
Je partage absolument le diagnostic et je n'ai pas attendu le livre remarquable que j'ai lu, d'ailleurs, votre livre, pour partager ce constat. Et je me souviens, parlant du spectacle vivant, je rappelais des chiffres tout à fait évidents. 58% des Français ne se rendent jamais dans un lieu de spectacle vivant, que ce soit l'opéra, le théâtre, les concerts, les cabarets, les festivals, le cirque. Et encore, dans les 40 et quelques pourcents qui restent, 10% simplement sont des consommateurs réguliers de culture. Il y a 30% qui sont c'est l'anniversaire de Tata Odette et on va regarder je sais pas un spectacle de Julien Doré. Enfin, c'est pas du tout une critique élitiste, hein, mais c'est un peu ça. Il faut regarder le constat. C'est-à-dire que
quand vous êtes arrivé au ministère, vous vous êtes dit que ça n'allait pas.
Oui, ça n'allait pas. Je connaissais les chiffres. Je dois dire, en plus, je suis tombé dans une période particulièrement difficile, vous le rappeliez, où là, les lieux de culture étaient fermés. Moi qui avais rêvé d'être ministre de la Culture pour sortir tous les soirs, je suis ministre de la Culture.
C'était raté
avec
pour l'opéra et les vernissages.
Voilà, c'est ça. Mais je dois dire que on ne peut pas parler d'échec des politiques culturelles, parce que les politiques culturelles ont plusieurs buts, et la démocratisation de la culture en est un, mais ce n'est évidemment pas le seul. C'est un secteur économique, par exemple, extrêmement important, hein. 70 milliards de chiffre d'affaires, 700 000 personnes employées, c'est un facteur d'attractivité.
C'est au niveau de l'automobile, hein, la culture.
Oui, ou de l'aéronautique. Je rappelle souvent ces chiffres. Et le problème, finalement, quand on regarde les politiques culturelles depuis que le ministère a été créé, même si des succès d'années de ministère existe depuis très longtemps et que les politiques culturelles de la 3e et même de la 4e République sont à saluer, c'est qu'on a pensé que l'offre surabondante allait créer la demande. Or, on se rend compte qu'une offre surabondante ne profite qu'aux gens qui déjà en profitaient. Et vous avez raison de souligner l'importance de ces études décennales qui sont faites par le ministère de la Culture sur les pratiques culturelles des Français. Par exemple, on voit que sur la décennie Jacques Lang, dont on célèbre un certain nombre de réalisations, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune démocratisation et que l'échec est patent. C'est-à-dire qu'on prend l'étude décennale du début des années 80 et du début des années 90, rien ne se passe. On a mis sur la table du banquet de la culture des mets de plus en plus savoureux, de plus en plus nombreux, mais les convives autour de la table, ils ne changent pas.
Victorien Bornéa, vous adoubez dans le sens de Roselyne Bachelot, vous allez plus loin même, parce que dans l'échec des politiques culturelles, il y a un phénomène que vous soulignez, donc c'est l'exclusion culturelle. Il faut quand même rappeler le titre très fort de cet essai. Vous partez de votre propre expérience. Quand vous êtes arrivé à Lyon pour faire vos études, vous dites « je me suis sentie en échec dès le hall d'entrée de l'Opéra National de Lyon par mon incompétence à choisir entre un spectacle lyrique ou un spectacle de ballet. Vous ne connaissiez pas la différence. Et vous parlez de honte sociale, même d'humiliation inhérente à ces expériences partagées par des millions de personnes. Ces politiques culturelles, elles fabriquent de la honte en plus. C'est votre constat ?
Oui, effectivement. En fait, je pense qu'on fait souvent le constat froid de l'échec de la démocratisation culturelle, mais on ne se pose pas suffisamment la question de ce que ça représente pour les classes populaires. Et donc, je pense qu'il y a tout un tas d'affects malheureusement négatifs qui ont été créés autour de ce sentiment d'exclusion, et qu'aujourd'hui, ces affects négatifs sont en train d'être convertis en rente électorale par une partie de la droite et par l'extrême droite. Et donc, ce qui est en train de nous guetter, c'est finalement un démantèlement du service public de la culture, parce que aujourd'hui, s'il y a des politiques, notamment en Pays de la Loire et notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, qui suppriment des subventions à la culture, c'est qu'ils le peuvent, c'est que leur électorat le leur autorise. Et d'une certaine manière, supprimer des subventions à la culture, c'est devenu un argument électoral. Alors à partir de ça, à partir de ce constat partagé qu'on a ensemble, il faut qu'on propose des solutions nouvelles. Et il faut qu'on réussisse à dépasser ces politiques qui existent depuis 70 ans.
Roselyne Bachelot, ce que dit Victorien Bornéa, c'est quand même, ça devient un carburant électoral, cette histoire de politique culturelle, mais sabrer les budgets, ça devient même un argument de plus pour être élu.
Oui, et il faut savoir que dans les collectivités territoriales, vous avez cité deux exemples de régions, ce sont les communes qui sont les principaux financeurs des politiques culturelles territoriales, et qu'il faut reconnaître que, et à gauche et à droite, dans les collectivités territoriales, il n'y en a pas un camp pour rattraper l'autre. 50% des collectivités territoriales ont baissé leur budget. Et il y a des collectivités territoriales qui tiennent bon, comme les Hauts-de-France de Xavier Bertrand, mais il devient un cas extrêmement, extrêmement rare. S'il faut stigmatiser ceux qui se conduisent mal, il faut aussi saluer ceux qui se conduisent bien. Mais le danger de cette affaire, et j'ai été très intéressé par ce que vous disiez dans votre livre, c'est qu'il ne faut pas non plus créer des cultures populaires. Je mets tous les... À la radio, les guillemets ne passent pas avec les doigts, pardon.
Mais moi, je les vois on les entend.
Qui serait une autre façon de stigmatiser et de ghettoiser. C'est-à-dire, il y aurait une culture pour les pauvres, je dirais, et une culture élitiste pour les riches. J'étais très intéressée parce que c'est aussi le danger de certaines collectivités territoriales. Je vois, par exemple, ce que fait l'adjointe à la culture de Grenoble, qui n'est plus adjointe à la culture, qui est adjointe aux cultures, au pluriel. Comme s'il y avait sur les étagères plusieurs types de cultures, les unes s'adressant à certains publics et les autres à d'autres publics. Et là, je pense qu'on va sur la mauvaise piste.
Victorien Bornéa, vous vouliez réagir et vous avez aussi une proposition à faire.
Oui, voilà.
Le nouveau populaire.
Exactement. Donc en fait, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on se pose la question de ce qu'on met en partage dans notre culture publique et finalement en vue de quel projet de société. Et moi, j'appelle aujourd'hui à mener une sorte de politique du dépassement. Il ne s'agit pas d'enfermer les gens, et notamment les classes populaires, dans la culture populaire. Bourdieu disait, il ne faut pas enfermer les gens dans ce qu'ils sont. Mais il ne faut pas non plus sommer les classes populaires d'adhérer à cette culture légitime héritée des arts savants et de la culture lettrée. Donc je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut qu'on crée un nouvel espace artistique et culturel, fait de toutes les cultures, de tous les répertoires, de tous les registres.
D'hybridation de public, chez Joël Pommerat, par exemple, qui est un metteur en scène.
Exactement. Et tout ça dans un rapport... Et tout ça dans un rapport de réciprocité. Il faut qu'on cherche des nouveaux carrefours culturels, des nouvelles hybridations, parce que finalement, c'est les hybridations culturelles et c'est par la culture qu'on va réussir à sortir par le haut de cette crise.
Il y a une autre question, c'est celle de la compréhension, je crois, qui est très importante pour vous, Victorien Bornéa. Vous dites qu'on surenchérit un peu tout ce qui est énigmatique et que ces œuvres mises en avant, parfois, dans la création contemporaine, pour leur aspect énigmatique, est reconnue comme chouette parce qu'énigmatique, ça met encore plus à distance.
Effectivement, moi, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on refonde notre politique artistique, parce qu'aujourd'hui, il y a tout un système de valeurs esthétiques tacitement valorisées, comme effectivement ce que vous disiez, l'énigmatisation, l'autoréférentialité, le rejet de l'émotion, etc., qui sont, à mon avis, des barbelés esthétiques pour les gens qui ne disposent pas des codes, qui ne sont pas un public initié. Donc si on veut s'adresser à tout le monde, il faut qu'on réinvente de nouveaux codes esthétiques. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est en train de s'emparer de nouvelles manières de faire, qui invente des nouveaux protocoles artistiques qui sont populaires, mais qui gardent pour autant une grande, grande qualité artistique.
Roselyne Bachelot, vous vouliez réagir? Et puis expliquez-nous si le curseur de la compréhension, ça peut être un curseur de financement ou pas aussi. C'est compliqué en termes de petit public.
J'ai semblé critiquer la politique de l'offre. Il faut quand même continuer cette politique de l'offre.
Oui, quand même, d'accord.
Il
y a des choses très bien. Moi, je vois sur... Il n'y a pas de désert culturel en France. Il y a une offre culturelle qui est assez bien répartie. On peut toujours améliorer le fait qu'il y ait, par exemple, sur l'opéra, qu'il n'y ait que 30, vous le soulignez d'ailleurs dans votre livre également, qu'il y ait des régions dépourvues d'offres d'opéra. C'est évidemment tout à fait regrettable. Donc cette politique de l'offre, il faut la continuer. Il faut se poser la question d'éducation artistique et culturelle, mais je remarque que cette éducation artistique et culturelle est assez bien fournie. Il y a une zone grise.
C'est quoi alors ?
La zone grise, c'est on quitte l'école. On a fait des trucs à l'école, parce que d'abord, c'est la culture, l'école. Il y a de l'histoire, il y a de la géographie, il y a de la littérature, on joue des pièces, on sort avec ses profs. Mais on rentre dans un système élitiste dans l'université, où on ne fait que ça, parce que c'est vraiment la compétition. Ensuite, comme les jeunes ménages avec enfants ne veulent pas s'installer dans le centre-ville, là où il y a le maximum d'offres culturelles, ils s'installent loin des lieux, des grands lieux culturels. Et puis quand on veut sortir, qu'on a une heure de RER, qu'on a deux gamins à la maison, comment voulez-vous
profiter de l'offre culturelle ? Une babysitter à payer, ça fait beaucoup.
Et moi, je pense qu'il y a une réflexion à mener sur cette zone des jeunes ménages qui doivent s'installer. Et alors, je crois, et je partage tout à fait votre avis, c'est que pour faire une culture populaire, il faut faire une culture hybride. C'est-à-dire, on fait du théâtre, mais de la danse, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir les codes pour la danse. La danse devrait être un art extrêmement populaire, et ne l'est pas, et c'est bien dommage.
Mais vous avez lancé le Pass Culture, quand même, Roselyne Bachelot, et le bilan est assez décevant, hein, Victorien Bornéa, et la Cour des comptes non plus n'est pas
prétendre. Oui, effectivement, parce que le Pass Culture, et c'est encore la même chose, il a profité à ceux qui n'en avaient pas besoin. C'est comme les portes ouvertes dans les musées où se précipitent des gens qui pourraient payer leurs billets. Mais moi, je militais pour que le Pass Culture soit entièrement en part collectif. Parce que ce qui a échoué dans le Pass Culture...
C'est quoi en part collectif, expliqué?
C'est-à-dire que le Pass Culture, il y a le fait que on vous donne en quelque sorte, je simplifie, un budget, un chèque dont vous usez pour acheter une place de
théâtre.
Quand
vous atteignez la majorité.
Et puis, il y a une part collective qui fait que le prof... Alors, je luttais aussi pour que le transport puisse faire partie de la part collective parce qu'il n'en posait pas parti au départ, que le prof emmène des élèves au théâtre en leur expliquant ce qui se passe, en s'arrangeant pour, par exemple, faire visiter les coulisses du théâtre. Qu'est-ce que c'est que de faire ça? Comment ça se passe? Voilà, et de faire la médiation, parce que c'est le plus important, la médiation dans la démocratisation culturelle.
Mais si en 70 ans, on n'y est pas parvenu, est-ce que vous pensez qu'en une quinzaine de minutes sur France Inter, on a réussi à résoudre le problème?
Peut-être pas, mais mais aujourd'hui, en tout cas, on voit bien où sont les urgences, c'est-à-dire que l'extrême droite cherche à fermer l'horizon culturel, et je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est à contrario d'ouvrir l'horizon culturel et de proposer un rapport positif et populaire à l'altérité culturelle.
Victorien Bornéa, conseiller culture, bravo, adoubé par Rosine Bachelot, au sein d'une grande collectivité territoriale et auteur de L'exclusion culturelle, manifeste pour une riposte populaire, publié aux éditions du Faubourg, et Roselyne Bachelot, merci d'avoir été avec nous, ancienne ministre de
merci
la culture et fan d'opéra, on peut le dire, et de Joël Pomera, tiens. Vous continuez à écouter la grande matinale de France Inter, c'est l'heure du choix musical.
Oh là là, je suis en mode avion. Pécache, on va se déplacer. Un peu de chance et un don de Dieu. Ils essayent mais ne peuvent pas remplacer. Aucune chance dans les équations. On fait le taf et les bons placements. Concentré loin des tentations. Venir reprendre les diamants de Bokassa. J'suis trop trix, mais j'pense qu'à ça. Des grosses bites tant t'es gros que ça. Gros poisson comme que franc. Jeunesse drôle, mais bon, c'était ma casse. Grosse coupure, magasin. Bébé trouve ça fantastique. Et j'ai tout mis dans tes mains, j'ai un plan plein de verres dans des sacs plastiques.
Ne t'inquiète pas, j'monétise. Ma baby veut que tu ailles dans ses biches. Ça fait longtemps qu'on maîtrise. Y'a les haters, la rue, puis y'a le fils. Vu d'en haut, tout est pacifique. Tu hublots une vie magnifique. Un peu trop tchakal ici. Ils en veulent à mon ici.
Oh là là, j'suis en mode avion. Cache, on va se déplacer. Un peu de chance et un don de Dieu. Ils essayent mais ne peuvent pas remplacer.
Aucune chance dans les équations. On fait le taf et les bons placements. Concentré loin des tentations. Venir reprendre les diamants de Bokassa.
J'suis bloqué là mais j'me dois d'avancer.
J'suis bloqué là mais j'peux plus reculer.
Quand c'est chaud ça veut plus rappeler.
C'est toi qui dois mais je dois te relancer.
Le seum qui monte j'me suis alcoolisé.
Et sur la route j'ai mis un peu d'excès.
Ramène notre famille dans le top.
Quelques grammes, des grosses peines sur la bouquille. Kilo, 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 je vais rentrer, les problèmes me font perdre des kilos. J'observe, je ressors avec des millions. Paris, la nuit, les endroits mignons.
J'ai grimpé sur Panama, tard la nuit dans les bails noirs. J'avoue, je voulais mailler, les keufs qui toquent chez la maman. Oh là là, je suis en mode avion. Pays cash, on va se déplacer. Un peu de chance, c'est un don de Dieu. Ils essayent, mais ne peuvent pas remplacer.
Aucune chance dans les équations. On fait le taf et les bons placements. Concentré loin des tentations. Venir reprendre les diamants de Bokassa.
La bonne surprise de Nino sur sa nouvelle mixtape, El Jefe, a invité Tiakola sur ce titre, Les Diamants de Bokassa, et c'est évidemment en playlist sur France Inter. Je rappelle aussi que vous retrouverez Roselyne Bachelot en voisine dès ce vendredi à 8h sur France Musique.
La chance.
Merci d'écouter. Ah bah oui, France Inter, il est 9h48 et Charline Vanhoenacker est bien installée dans le studio. Le débat sur la fin de vie dure depuis 15 ans et cet après-midi, l'Assemblée devrait enfin voter un texte de loi.
Le débat est tellement long qu'il me donne envie de crever. Oh, vous êtes là, le bonjour Annie Rébéi.
Eh oui. Bonjour. Alors voilà, on l'a invité à prendre un dernier café.
C'est vrai. Parce que c'est un sujet pour vous, ça,
ben
c'est
oui.
Feel Good.
Ben oui.
Pour une émission, grand bien vous trépasse. Quand on voit la période qu'on traverse, on se dit que la mort, ça peut pas être pire. Alors, on a bien compris que la fin de vie, ça n'a jamais vraiment été la priorité du gouvernement. Les morts, ce sont les seuls individus auxquels on ne peut pas demander de faire des efforts pour rembourser la dette. Et alors les morts ultra riches, je vous en parle même pas. De toute façon, en ce moment, à l'Assemblée, la seule fin de vie qui les préoccupe, c'est celle de LFI. Alors le texte aurait déjà dû être voté au moins 20 fois, mais il a été repoussé à aujourd'hui. Je veux dire, au point où on n'en est plus à un jour près. Mais attention, parce qu'après, le texte doit passer devant les sénateurs. Et là, il y a urgence d'en discuter avant qu'il soit trop tard. Alors depuis le temps que ce texte a été rédigé, débattu, puis reporté, redébattu, il doit être tout jauni, tout fripé, là, avec les pages cornées. Là. Oh, il est déjà au service des soins palliatifs de l'Assemblée. Alors les malades qui attendent le vote de cette loi, ils sont au bout du rouleau. Oui, mais on sait, Michel, que tu souffres, que tu veux mourir. Mais reprends un Doliprane, parce qu'il y a encore 200 amendements à étudier. Voilà, d'ici là que le texte soit voté, on aura trouvé un vaccin contre le cancer. Alors certains amendements ont été adopté avec 57 voix contre 51. Donc les 469 députés qui n'ont pas participé au vote doivent se dire « Non, mais j'y connais trop rien à la mort, moi. J'ai jamais essayé, donc je préfère voter sur des trucs que je maîtrise. » Vous voyez, Alice, c'est un beau sujet, ça.
Oui.
Hein. Et c'est pas pressé, en plus. Voilà, et j'ai le titre. Piqûre, gélule ou spray, comment mieux mourir sans avoir recours au suppositoire. Venez témoigner, si vous avez été euthanasié, appelez le standard.
Racontez-nous. 0145 24 7000.
Et voilà, racontez-nous votre expérience. Alors, certains diront que je rigole de la mort des gens, ouais. Alors que techniquement, ces gens ne sont pas encore morts, puisque les députés refusent de les laisser mourir. Alors, à droite, ils ont fait le calcul. Ouh, si on autorise les très vieux à en finir plus facilement, on perd plus vite notre électorat, ça nous arrange pas trop. Les réacs, eux, sont vent debout, là, à deux doigts d'utiliser le verso des pancartes de la manif pour tous. Rappelez, un enfant, c'est un papa plus une maman. Allez, phase B, un malade en fin de vie, c'est un coma plus des médicaments. Bon, après, à l'extrême droite, ils veulent t'obliger à naître, t'obliger à aimer le sexe opposé, et puis t'obliger à rester vivant. La ligne éditoriale est claire. Mais c'est la fin des libertés. Et puis à gauche, il y a une partie qui a fait passer des amendements pour qu'un soignant puisse administrer la substance mortelle. Alors que les députés de droite voulaient que ce soit la personne elle-même qui s'administre le produit. Encore une fois, la gauche favorise l'assistanat. Tandis qu'à droite, il nous encourage à être auto-entrepreneurs, mais jusqu'à vraiment la dernière seconde de l'existence. Alors qu'actuellement, l'aide à mourir est déjà pratiquée dans les hôpitaux en France de manière officieuse. C'est ce qu'on appelle attendre 7 heures aux urgences sur un banc à cause du manque de personnel. Voilà. Je peux vous dire qu'en Belgique, ils se foutent bien de votre gueule. Hein, enfin, un petit peu plus que d'habitude, je veux dire. Voilà. Alors à l'Assemblée, les paris sont ouverts. Est-ce que la loi sera votée avant que Rachida Dati ne parte du gouvernement? Je dirais que dans les deux cas, c'est de l'acharnement démocratique.
Merci Charline Vanhoenacker. On vous retrouve demain et tout de suite, nouvelle tête avec Daphné Burki, un danseur multipiste qui pratique dans les parkings comme dans les musée, c'est Nemo Flore.
La grande matinale sur France Inter.
Ma nouvelle tête aujourd'hui s'appelle Nemo Flore. Il est danseur, chorégraphe et tous les regards convergent vers lui. Je voulais vous le présenter déjà parce qu'il a failli ne jamais danser à cause de l'école qui aurait pu le dissuader, trop cadré, trop normatif. Pourtant, aujourd'hui, Nemo Flore, il imagine des écosystèmes nouveaux dans un monde bien abîmé, dit-il, et des danses collectives qui débordent des théâtres. C'est-à-dire qu'il investit des parkings, un hangar, un musée, le Louvre, une cour de lycée. Moi, je l'aime bien parce que il a quelque chose de Billy Elliot quand même. Une grande tristesse, mais planqué sous l'énergie, qui dit « Je sais pas si je sais faire, mais en fait, j'ai pas peur. » Il a refusé d'entrer dans la prestigieuse compagnie Rosas à la sortie de son école, gros fuck, pour tracer son propre chemin. Et son premier crush, à lui, c'était Lily la tigresse dans Peter Pan. Mais surtout, ce qu'il adorait, et aujourd'hui encore, c'est l'euphorie collective du pays imaginaire. Monter des spectacles entre amis, c'est ça l'idée. Et je l'aime bien aussi parce qu'il aime quand le monde ne dort jamais. Son bruit préféré, c'est celui-ci. C'est celui du train de marchandises qui passait la nuit près de chez lui. Petit, un monde en mouvement, je crois que ça rassure Nemo. Alors je vous le présente aujourd'hui parce que c'est lui, le grand flash chorégraphique du Festival d'Avignon de cet été. Son spectacle s'appelle Dernier Feu, il a remporté un énorme succès et il part en tournée. Ça parle d'amitié, de fin du monde, de feux d'artifice. Oh, la belle bleue. Bonjour Nemo.
Bonjour Daphné.
Qu'est-ce qui se passe avec les feux d'artifice? C'est votre crush?
Ouais, c'est peut-être une promesse d'enfance que j'avais besoin de tenir à moi-même et de le mettre dans un spectacle. C'était ce que j'avais de mieux à faire, en tout cas depuis quelques années.
Ça s'appelle Dernier Feu, ça s'est passé dans la cour d'un lycée à Avignon. C'est une pièce apocalyptique, anarchique, collective, ils sont 11 dessus. Il y a de la trompette aussi.
Ouais, beaucoup de trompettes. Une trompettiste avec qui je travaille, Susanna Santos. Et la trompette, c'est l'instrument que je jouais quand j'étais petit. C'est l'instrument qui appelle les gens à se retrouver. C'est les instruments qui aussi peuvent faire la fête ou aussi des fois annoncer la mort ou les funérailles. Donc c'était toute cette ambiguïté-là que j'ai retrouvée aussi dans le feu d'artifice, je pense, et puis dans la danse qui m'a amené à faire ce spectacle.
Moi, je conseille évidemment aux auditeurs d'aller voir de la danse. Ça fait un bien fou, c'est immédiat. Et son spectacle, c'est comme si c'était le dernier. C'est ça le mot d'ordre ?
Ouais, peut-être. Après, c'était une façon pour moi peut-être d'enlever la pression d'une première fois, vu que c'était une grande première fois. Et j'aime beaucoup penser que c'est la dernière fois. On donne tout aussi avec beaucoup de vie et d'amour.
C'est vrai qu'il paraît que la légende dit que c'est à 14 ans que vous avez un peu quitté la trompette au Conservatoire d'Orléans et en même temps vous avez dit on tient pas grand monde avec une embouchure et une sourdine. Mais il y avait la porte à côté, il y avait c'est en tout ça. Cas un studio de danse. Vous vous souvenez du premier pas de danse que vous avez esquivé et c'était un grand oui?
Ouais, je me souviens d'une sensation, c'était un cours de danse avec des comédiens et des comédiennes, donc c'était des non-danseurs directement on va dire. Et c'était un truc aussi hyper collectif, c'était avec une chorégraphe qui s'appelle s'appelait Odile Duboc. Et elle nous avait fait danser, elle nous avait fait ressentir quelque chose, et en fait c'était assez beau. Je pense que je m'étais oublié moi-même, et c'était cette sensation-là que j'avais envie de retrouver en continuant la danse.
Il y a une chanson qui vous aide à vivre, mais il y a une chanson importante à chaque fois dans vos spectacles, c'est celle de Nina Hagen. Nature Train. Bon, je peux traduire quelques paroles. Ouais, où elle dit « Soudain, mon cœur devient lourd, j'ai juste besoin de voir voler des oiseaux et mon regard se dirige vers le ciel et ça fait aussi mal à l'âme.
Ouais. »
Pourquoi elle est importante, cette chanson, pour vous ?
Elle m'accompagne depuis très longtemps et je la mets tout le temps au salut, après les spectacles. C'est une forme de chanson qui crée ce pont qu'il y a entre le moment du spectacle, qui est une sorte de fiction, et le moment où on revient à la réalité. Et je trouve qu'elle contient une très grande nostalgie, mais toujours avec cet espoir de regarder le ciel. Même si la tristesse est là, il reste quelque chose, c'est les étoiles et ce qu'il y a au-dessus de nous.
Je voulais vous présenter cette nouvelle tête parce que je crois qu'il faut la suivre. Il va avoir 30 ans cette semaine. Happy birthday ! Et vous êtes en train de déplacer en fait le cadre. Et en fait, il entraîne tout le monde dans sa foulée. Au lieu d'un théâtre, par exemple, il va choisir un parking, un hangar, une friche industrielle. Mmh. Génial lieu à Montreuil où vous avez donné votre premier spectacle. Et ce geste-là, ce refus des cases, Nemo Flouré et son fleuret, hein, c'est devenu une signature. Par exemple, il a investi le Louvre. Imaginez, il y avait des danseurs partout dans le Louvre et qui continuaient à poursuivre le trait des tableaux. On écoute un extrait avec la Joconde.
C'est moi que je suis la Joconde, mon sourire vient d'autre tombe. Attendez que le vernis tombe, attendez la fin du monde.
Ça s'appelle Forêt, ça se passait avec Anne-Thérèse de Kersmaker, ça se passait au Louvre, il y avait des danseurs, c'était complètement fou. Et le geste répondait à ceux peints par le Titien, Vinci ou encore Véronèse. Vous aviez un tableau préféré à ce moment-là ?
Il y en avait énormément, qui m'ont beaucoup touché, mais il y avait l'homme au gant, qui était juste en fait à gauche de la Joconde, dans cette salle qui justement était un peu dans l'ombre de cette Joconde-là. Et il me touchait par son regard, comme ça, absent, tout le monde lui tourne le dos. Et je l'aimais bien, ce tableau un peu fantôme.
Vous pouvez voir, évidemment, sur Arte, il y a eu une captation absolument magnifique de ce moment. Et si je voulais vous présenter Nemo aussi, c'est parce qu'il fait des ponts, par exemple, entre la danse et la mode, et il collabore avec Satoshi Kondo, qui est le directeur artistique de la maison Issae Miyake. Il arrive à faire danser des vêtements pendant un défilé de mode. On entend un peu cette ambiance, d'ailleurs. Qu'est-ce que ce dialogue, justement, entre la mode et la danse, ça vous apporte à vous, et puis ça nous apporte à nous, public ?
Je pense qu'il y a une forme de liberté très profonde dans le geste de Satoshi au sein de la maison Issae Miyake, qui pour moi me ramenait à cette danse. On parle d'éphémère, on parle de quelque chose d'instable, de quelque chose en mouvement, avec les tissus et le travail vraiment aussi de l'artisanat. Et je pense que j'aime beaucoup cette relation, en tout cas, que Satoshi nourrit avec ses collections, et ce que j'essaye de faire aussi, mais ce rapport entre le presque rien, faire beaucoup de choses avec deux, trois trucs qui traînent, et ça devient très magnifique, je pense, cette poésie-là aussi du rien.
On m'a raconté une histoire sur vous, je trouve que ça résume ce que vous venez de dire, mais je suis obligée de la partager. Vous avez 12 ans, vous vivez à Orléans avec une bande de copains, vous décidez d'organiser un festival. Vous recevez une subvention minuscule de la mairie, et là vous claquez toute la thune pour faire venir un groupe de métal qui débarque et découvre le groupe de métal que les organisateurs ont 12 ans.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai cette histoire ?
Ouais, mais non, ils étaient...
C'est complètement fou.
Et on avait retiré tout le cash, donc on les a payés en cash, on les a emmenés au Novotel. Non, c'était assez intéressant et ils ont débarqué. On avait 12 ans, on était 50 sur un petit stade et ils ont déliré. Et je pense qu'ils s'en souviennent encore. Je me demande d'ailleurs s'ils s'en souviennent
tout
encore.
Tout est comme ça dans la vie de Nemo Flouré. C'est un prétexte finalement pour vivre des aventures avec des amis et avec le public. C'est un bonheur à regarder. Vous avez une dédicace aujourd'hui à l'antenne en particulier ?
Et je pense à toutes les personnes avec qui je travaille, qui m'accompagnent depuis maintenant plusieurs années et avec qui je vis une vraie histoire artistique et une histoire d'amitié aussi. Et je pense que c'est dans ma danse que ça se joue aussi à cet endroit-là. Et j'espère qu'on va continuer encore plein d'années. Et puis je pense à ma grand-mère aussi, Annick, qui m'écoute, je pense très fort à elle.
Dédicace à Yannick, la grand-mère. Merci Nemo Flouré et Daphné Burki. C'était les nouvelles têtes sur France Inter. Tout de suite, c'est la fin de la grande matinale et c'est le grand passage d'antenne avec Ali Ribéi pour Grand Bien Vous Fasse et Pas Grand Bien Vous Trépasse. Votre sujet du jour, Ali.
Bonjour Mathilde. Et bien, ce matin, comment accompagner la crise d'ados, les ados qui vivent une tempête hormonale qui transforme leur corps et leur cerveau. Mais il y a certains ados qui ne vivent pas de crise d'ados. Les parents, les grands-parents qui ont ont ce genre d'ado à la maison peuvent également appeler.
Gabriel Attal peut appeler pour témoigner aussi.
Il peut appeler aussi. Vous êtes concernée par le sujet, Mathilde? Bah,
écoutez, oui, parce que je suis peut-être toujours en crise d'ado. À tout à l'heure, Ali.
01 45 24
oui.
7000.
Oui, quand même, bien quand sûr. Même.